La chute est une urgue. La chute est une urgue. La chute est une urgue. D'abord ce fut la nuit. Le silence. Le temps au-delà du temps. C'est là qu'elle est venue, la très vieille, la Kaliak. Elle est venue du nord, de plus loin que le nord, enveloppée d'un voile de tempête. Sa peau bleue luisait étrangement dans l'ombre épaisse. Et son regard perçait la nuit. Son œil unique, un seul œil, oui. Mais aigu et tranchant comme une lame de couteau, tranchant comme la glace. Ses dents à la très vieille, elles avaient la couleur de la lande rouillée d'automne. Ses cheveux flottaient après elle, ses blancs cheveux, comme des blizzards. Elle a les pieds nus. Et son souffle, le souffle de la Kaliak, il était si glacé qu'il fit frissonner les étoiles. Oui, c'est ainsi qu'elle est venue à la recherche d'un nouveau domaine. Et elle scrutait la terre autour d'elle de cet œil unique, aigu et tranchant comme la glace. La terre appela la Kaliak et la très vieille chanta pour elle. Et la terre répondit à ce chant en grondant. Viens, pose-toi sur moi, plonge tes mains en moi et fais-moi renaître, dit la terre. En ce temps-là, la terre était une masse informe. Il n'y avait ni montagne, ni rivière. Il n'y avait ni arbre, ni vallée, ni oiseaux, ni animaux. Il n'y avait pas de Dieu. La Kaliak se mit au travail. Elle plongea ses mains dans la terre. Elle souleva, elle creusa, elle façonna, elle forgea le monde avec ses mains nues. Elle fit des montagnes, des armées de montagnes, des légions de montagnes, et elle souffla ses tempêtes tout autour. Et la neige vint. Et la première carapace de glace se posa sur les premières filles de la Kaliak, les énormes montagnes d'Écosse. Après cela, elle parcourut son domaine, encore et encore ses montagnes, jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir fatiguée. Et alors, elle décida d'aller dormir sur le sommet de l'une des montagnes qu'elle venait de créer. Et elle dormit profondément parce qu'elle avait bien travaillé à Kaliak. Elle se réveilla après cette nuit, cette première nuit dans le monde tout neuf. Elle avait soif Elle regarda les montagnes fraîchement créées et elle en vit une qui était ronde, pleine comme une lune, une qui était remplie d'eau pure. Alors, la Kaliaque alla à cette montagne-là et avec son pouce, elle fit une entaille dans la roche. Et après avoir fait cette entaille, elle y posa sa bouche et elle aspira. Une première fois. Puis une deuxième fois et encore une troisième fois. Et elle fit jaillir la première source d'eau pure. Elle continua à inspecter son domaine après avoir bien bu. Et de son tablier tombèrent des pierres. Et ces pierres semées sur la mer devinrent les îles Hébrides qui brillent encore aujourd'hui comme des joyaux fraîchement créés. Et puis après tout cela, elle fit les corbeaux au plumage de nuit. Et les corbeaux l'accompagnent toujours quand elle va dans son domaine, dans ses hautes terres, dans ses highlands d'Écosse. Il l'aide à surveiller que tout est toujours en ordre, que tout est toujours en équilibre. Et comme chacun sait, c'est du chant mystérieux et sauvage de la vieille Kaliaque que sont nées les biches et les cerfs qui courent sur la lande austère. C'est ainsi qu'elle créa le monde, la très vieille, et ce monde était beau, d'une beauté tranchante comme une lame de couteau. À cette époque, les rivières chantaient. Et tous les êtres savaient entendre le chant des rivières. En ce temps-là, les pierres parlaient. Et tous les êtres savaient comment répondre aux pierres. Le souffle de la déesse, de la vieille, très vieille Kaliaque, courait dans la sève des arbres, courait dans le pas des loups. Il courait dans les tourbières toutes fraîches. Il courait dans les profondeurs abyssales des océans. Et chaque être sur la terre parlait la même langue. Oui, tous parlaient la même langue, une langue très belle et très ancienne, une langue sauvage et sacrée qui est aujourd'hui perdue. Enfin, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait perdue. Non. Pas tout à fait. Alors vous voilà arrivé sur les terres de la Kaliaque, sur les terres de la très vieille. Et nous voulions commencer cette conférence par un écran noir. Et pas par des images, parce qu'on voulait que votre imagination se réveille d'abord par ce mythe qui est très ancien, qui n'est pas du tout une invention de ma part, qui est un mythe que beaucoup d'Écossais connaissent et se transmettent de génération en génération, qui explique à sa manière comment l'Écosse a été créée. Et On voulait démarrer cette conférence en laissant la parole à la vieille Kaliak. Les personnes qui parmi vous sont venues avec nous en Écosse savent qu'on lui laisse souvent la parole. Elle nous inspire beaucoup et j'espère qu'elle vous inspirera aussi parce que c'est elle qui va nous guider pour ce voyage.
L'une des choses les plus frappantes qui vous interpelle quand vous arrivez en Écosse, c'est que vous êtes tout de suite dans un monde sauvage. Vous avez beau être sur la route, vous savez que vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Vous faites deux pas à l'écart de la route. Et déjà, vous êtes dans un monde à part, un monde sauvage. Ça n'a jamais rien de progressif. On est tout de suite plongé dedans. On fait quelques pas, on y est déjà, le vent il soulève les cheveux. Enfin, pas pour moi. Moi, il siffle dans la barbe, c'est déjà bien. Les vagues de pluie courent sur les landes. Et vous êtes déjà avalé par ces paysages, avalé par la tourbe noire. Ces paysages vous enveloppent. Et il vous avale immédiatement. L'Écosse est un petit pays en termes de population. 5 millions d'habitants, c'est à peine plus de la moitié de Londres pour le pays tout entier. Et encore, l'immense majorité des personnes vivent dans un triangle entre Perth au nord, enfin au nord du triangle, je me comprends bien, Glasgow et Edinburgh, bien au sud du pays. Donc dès que vous entrez dans les Highlands, c'est fini. Il n'y a plus personne, à peine une maison, à peine un village. Vous parcourez des distances énormes avant de trouver ne serait-ce qu'un petit magasin. Et votre entrée dans les Highlands est marquée par un lieu incroyable. Des landes brumeuses que l'on nomme Rannoch Mór. C'est une immense tourbière. Une tourbière qui était autrefois le point le plus profond des anciens glaciers qui recouvraient ces terres. En traversant Rannoch Mór, ces terrains sont, enfin, vous parcourez des kilomètres sans voir d'habitation, sans voir personne, rien que les cerfs, les gardiens des lieux. Et c'est un lieu qui est désolé. Il n'y a pas de relief. C'est comme si le paysage lui-même nous préparait pour son effet dramatique à l'arrivée à Glencoe. Et là, les montagnes se rougissent. Et pour accentuer l'effet dramatique, souvent la lumière s'y met pour souligner. Ici, Buchelhetef Mór, le grand berger de Glenetef. Alors nous aimerions vous amener avec nous dans ces terres. Ces espaces sauvages et précieux. Un peu comme si vous étiez dans le van avec nous. On vous emmène traverser Rannoch Mór, le passage mythique avant d'entrer dans les Highlands. Alors laissez-nous vous amener à travers le portail magique de Glencoe. Laissez-nous vous amener vers les Highlands, vers l'Écosse et vers l'âme du sauvage.
Into the Wild. Donc c'est notre troisième conférence avec les trackers d'images et ceux qui nous ont déjà entendus savent que notre démarche, elle est très ancrée dans une relation d'intimité avec le sauvage, on va dire ça comme ça. C'est un besoin vital pour nous de nous relier à ces lieux. Ça fait 15 ans maintenant qu'on a choisi de s'installer sur le haut plateau du Vercors pour ça. Aussi parce que nous sommes des solitaires. Cette conférence, pour moi personnellement, c'est ma vie sociale des trois derniers mois. Dernière ayant été fin octobre avec le séjour en Écosse. Et j'ai vu quasiment personne depuis à part nos enfants. Et ça me va. Même si, voilà, on est content quand même de vous avoir là. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas tout de suite. Mais c'est vrai que nous sommes des solitaires et nous avons besoin de nous immerger dans des terres aussi solitaires que nous. On a besoin, quand on fait une randonnée, de croiser le moins possible de bipèdes, j'avoue. Et en Écosse, voilà, sur cette image que vous voyez là, ce bipède, c'est le seul que j'ai vu. Et il était très gentil de me permettre de faire une belle photo. Ce besoin de sauvage, c'est quelque chose, c'est un mot déjà qui devient à la mode, mais pas, je dirais pas d'une mauvaise manière. C'est quelque chose, c'est une énergie vers laquelle beaucoup de personnes ont besoin de se tourner aujourd'hui. Je pense que c'est lié à beaucoup de facteurs. L'un des facteurs, pour moi, enfin pour nous, c'est l'effondrement du monde naturel autour de nous et le besoin de trouver des espaces préservés. Parce que se relier au sauvage, c'est retrouver d'une certaine manière le lieu d'où l'on vient, nager vers la source, comme le font les saumons en Écosse qui remontent les rivières. On a un amateur de saumons parmi nous, donc j'ai une petite pensée pour lui. Et le saumon, pour les Écossais, c'est un animal sacré. C'est le gardien de la sagesse. Et voilà, on se compare parfois, enfin, non pas qu'on se pense gardien de la sagesse, mais on a ce besoin, comme le saumon, de retourner à la source pour retrouver qui on est. Il y a toujours chez nous, quand nous retournons vers les Highlands, les hautes terres d'Écosse, cette idée d'un retour aux sources et aussi l'idée d'une quête, de beauté, une quête de force, une quête de sens. Il y a un écrivain que nous citons souvent dans les conférences qui s'appelle Henry David Thoreau, qui est un écrivain américain du 19e siècle, qui a écrit une très belle phrase qui est « Dans le monde sauvage repose la sauvegarde du monde. Dans le monde sauvage repose la sauvegarde du monde. » Je la garde toujours dans mon cœur, cette citation de Thoreau. Donc c'est vraiment le retour vers le sauvage doit être fait, je dirais, en suivant ces mots-là. Et non pas dans une idée de consommation de sauvage. Il ne s'agit pas de prendre, mais d'apprendre. Il s'agit de revenir vers ce monde essoufflé et d'avoir quelque chose à lui offrir. Et dans ce sens-là, notre démarche de photographe, de naturaliste et simplement d'être humain qui avons besoin de passer du temps dans le sauvage, c'est aussi lié à un engagement très fort pour le monde naturel et pour le vivant. On a donné ce mot sauvage, âme du sauvage, en titre à cette conférence, et vous allez entendre beaucoup ce mot sauvage ce soir. Et avant d'aller plus loin, je voulais revenir sur le sens qu'on peut donner à ce mot, parce que le sauvage n'est pas forcément ce que l'on croit. Quand on évoque ce mot-là, bien souvent on imagine des terres intactes, des terres incultes, qui n'ont pas été touchées par l'humain, où la présence humaine est inexistante. Et pour nous, le sauvage, ce n'est pas du tout cela. Sinon, en fait, il faudrait admettre qu'en Europe, nous n'avons plus aucun espace sauvage. Nous qui habitons sur le Vercors, nous sommes tout à fait conscients que ce n'est pas une terre intacte, c'est une terre où la présence humaine est là depuis longtemps et où elle a modifié les paysages, créé des alpages, créé des prairies, où les forêts sont exploitées. C'est la même chose en Écosse, en fait. Et je trouve que c'est important de l'avoir en tête quand vous avez passé ce portail-là avec Matt et vous rentrez sur ces tourbières. Il faut savoir que l'Écosse n'a pas toujours été ainsi. Ces landes immenses n'ont pas toujours été là. Et l'Écosse que nous traversons aujourd'hui, c'est le résultat d'une activité humaine qui existe depuis très longtemps et je dirais même d'une activité humaine frénétique. Tellement frénétique qu'elle a entraîné la disparition de la grande forêt boréale qui s'étendait là au départ. Imaginez la forêt calédonienne, comme elle était appelée, qui était composée beaucoup de bouleaux, d'arbres un peu rabougris, de Scots pines aussi, une espèce de pin sylvestre. Et il reste des toutes petites miettes en Écosse de cette forêt boréale. Ça, c'est cette photo-là, c'est une petite forêt de bouleaux dans un petit vallon totalement inconnu sur l'île de Skye. Et c'est un local qui nous en a parlé, qui nous l'a fait découvrir. Et voilà, c'est un petit résidu de l'ancienne forêt qui était là. Donc la beauté que nous trouvons en marchant sur la lande écossaise, c'est celle d'un désastre. Mais un désastre sur lequel la vie est venue se tisser à nouveau en créant les fameuses tourbières. Car la vie revient toujours après les désastres, la vie est plus forte. Et s'il y a bien une chose que l'Écosse nous dit, c'est vraiment cela, la vie est plus forte. Elle trouve d'autres chemins pour s'épanouir. Donc il n'y a plus la forêt intacte des origines, mais il y a ces tourbières. Et l'Écosse n'est pas une terre intacte, mais c'est une terre sauvage. Et bien qu'elle ait été radicalement transformée par la main de l'homme, on dit avec Matt, on aime bien dire qu'elle n'a jamais été apprivoisée. Elle n'a jamais été muselée. C'est une terre qui reste libre du contrôle humain. C'est une terre qui est parfois blessée, peut-être, mais qui n'est jamais, jamais domptée.
La tourbière. Comme Sandrine l'a indiqué un peu plus tôt, les Highlands de l'Écosse sont en grande partie recouverts de tourbières. Des tourbières qui n'étaient pas là, donc qui n'ont pas toujours été là. Hein. Ça fait quelques milliers d'années que ça se forme, mais à l'origine, il n'y avait pas de tourbières. C'est une terre avec laquelle on dit là-haut qu'on ne peut rien faire. C'est inutile, c'est pauvre, c'est acide, c'est gorgé d'eau. Les sols empêchent toute culture. On a des grands champs fertiles au sud de l'Écosse, mais dans les Highlands, rien de tout cela. C'est de la terre à moutons, comme on dit, et c'est pas franchement un compliment. Et pourtant, les anciens, ils arrivaient à travailler ces terres à force de patience, d'adaptation. Ils cultivaient ici, sur l'île de Harrison Lewis, vous pouvez voir des zones qui ont été cultivées, c'est les vestiges de ce qu'on appelle les lazy beds, qui traduit littéralement, veulent dire les lits feignants. Je peux vous assurer que ça n'a rien de feignant. Ce sont des parties de la tourbe qui ont été remontées dans des espèces de précurseurs de la permaculture, et puis ils mettaient des algues pour enrichir la terre et les cultiver, quelques navets, quelques pommes de terre. Cela a demandé un travail absolument énorme et aujourd'hui on voit encore ces vestiges comme le Black House, ce qu'ils appelaient la Maison Noire, une ancienne maison de crofter. C'était les petits fermiers qui vivaient un peu en autonomie. Alors si ces terres sont encore sauvages, ce n'est pas vraiment par souci de protection de la part des gouvernements successifs. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait un certain nombre de conneries, les gouvernements britanniques, surtout ces dernières années. Mais c'est plutôt parce que ce sont des terres qui ne se laissent pas discipliner. Je ne sais pas si vous avez déjà été marcher dans une tourbière. C'est un lieu très étrange où ce n'est plus tout à fait la terre. On sent qu'on est un peu dans le règne de l'eau. Le sol est spongieux. On peut s'enfoncer facilement jusqu'à mi-cuisse. Il y a des tas d'histoires dans les Highlands de personnes qui ont disparu, qu'on n'a plus jamais retrouvées, des cavaliers enfoncés. D'ailleurs, même des armées anglaises qui en ont fait les frais de temps à autre. Et bien sûr, il y a, en parlant de personnes qui s'enfoncent dans les tourbières, les hommes et les femmes des tourbières, ces femmes et hommes déposés lors de la néolithique, l'âge de bronze, l'âge de fer, et qu'on trouve aujourd'hui quasiment intactes. Leur peau, leurs cheveux, leurs vêtements parfaitement conservés par l'acidité du sol. Et c'est cette acidité qui rend la culture impossible, ou presque, et qui complique aussi l'installation d'autres végétaux. On pourrait se dire, mais alors pourquoi la forêt elle ne revient pas? Ça a tendance à asphyxier toutes les racines de végétaux qui ne sont pas parfaitement adaptés à ces milieux humides. C'est l'omniprésence de l'eau qui joue ce rôle. Et donc les tourbières finissent par devenir des sortes de gardiennes très farouches du sauvage. Elles ne laissent pas entrer grand monde dans leur royaume au final. On l'avait peut-être compris, malgré les images et les ambiances qui peuvent faire rêver, ce ne sont pas vraiment des lieux accueillants. Et en même temps, c'est pour ça qu'on les aime. Marcher dans la tourbière écossaise, c'est une expérience puissante. Il faut être attentif à chaque pas. Ceux qui ne le sont pas comprennent vite la leçon. Ça fait un petit... Il faut prendre le temps, il faut apprendre à marcher dans la tourbière, apprendre les végétaux qui portent, les végétaux qui avalent.
Il faut surtout marcher derrière Matt.
Et il faut surtout rester humble, parce que c'est vrai que même avec beaucoup d'expérience, même avec beaucoup d'habitude à marcher dans ces milieux-là, dès qu'on commence à se croire un peu trop à l'aise, on se fait rapidement rappeler à l'ordre. C'est des terres où on n'est pas maître, on n'a pas la main. Oui, donc des terres où on nous enseigne une certaine humilité, mais aussi des terres qui nous apprennent la patience. Je disais sur quelques milliers d'années, en fait, la tourbe, je ne sais pas, enfin, il y en a qui savent peut-être, mais la tourbe met des milliers d'années à se former. Ça se forme à un rythme d'à peu près 1 mm par an, donc il faut compter 1000 ans pour un mètre de tourbe. C'est long, et ça garde aussi la mémoire des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Vous trouvez au fond des tourbières des graines qui nous permettent de savoir quels végétaux poussaient sur les îles Brit, enfin, l'Écosse, le nord de l'Angleterre, bien avant la formation des tourbières. En fait, cette tourbe, elle est indispensable pour la vie dans les Highlands parce que sans bois, vous n'avez rien pour chauffer. Enfin, avant l'arrivée de l'électricité, on n'avait rien pour se chauffer. Donc, on extrait la tourbe pour l'utiliser comme combustible. C'est très riche en carbone et ça permettait de chauffer la maison. C'est interdit dans la plupart des îles maintenant, l'extraction de la tourbe, puisque c'est devenu précieux pour garder tout notre carbone. Mais ici, en bas de l'image, je ne sais pas si vous voyez quelques petites lignes au premier plan. Ces lignes sont les vestiges de coupes dans la tourbe. Alors, ces coupes, on peut imaginer que c'était peut-être l'année dernière, l'année d'avant, il y a 10 ans. En fait, ça s'est fait quand j'étais un enfant. Alors, je devais avoir... Enfin, oui. Disons que c'était à plus de 40 ans. Et j'ai encore le souvenir de ces briques de tourbe à cet endroit, les coupes toutes fraîches. Et pourtant, aujourd'hui, chaque fois qu'on y retourne, je vois ces coupes et je me dis, ça se voit toujours. La tourbière, elle a gardé cette mémoire en elle.
Oui, donc marcher dans la tourbière, c'est une bonne leçon sur notre impact sur la nature et ça nous permet de voir comme la Terre, comme le disait Matt, garde en mémoire ce que nous faisons. La tourbière, elle nous dit d'être attentif, elle nous dit d'être sobre, elle nous dit d'être patient. On en parlait tout à l'heure avec certains, on est dans un monde pressé. Et on adore la tourbière pour ça, parce qu'elle nous impose un autre rythme. Elle nous rappelle qu'il y a un autre rythme. Elle nous dit, sois attentif et va lentement. Donc c'est pour nous une gardienne du temps. Et à chaque fois qu'on va en Écosse, on fait ce geste-là de prendre de la tourbe dans nos mains. Déjà sentir le parfum de la tourbe, c'est magnifique. Puis c'est beau la tourbe, c'est vivant. Et c'est aussi une manière de sentir qu'on prend du temps dans nos mains. Voilà. Quand on prend la tourbe dans nos mains, c'est une manière aussi de se relier à sa sagesse. Et maintenant, je vais vous lire. Donc, vous savez que j'écris beaucoup. Je suis une amoureuse des mots. Et comme dans toutes nos conférences, vous aurez des petits passages, des extraits de mes journaux poétiques. Et je vais vous lire un petit passage. Jour de pluie sur Sky. Ciel bousculé de nuages. Les averses s'avancent les unes après les autres, laissant glisser leur voile gris sur la lande. Les deux pieds enfoncés dans la tourbe spongieuse, j'attends leur venue. C'est bon. Les premières gouttes sur le visage, froides et douces. Attendre encore, laisser venir la pluie. La voici qui approche dans un immense bourdonnement. Elle nous enveloppe maintenant, ruisselle sur nos vêtements, coule dans nos yeux. La terre se trouble. Les crêtes au loin s'évanouissent. Nous sommes trempés. Nous sommes heureux. Derrière les Black Cullens, l'ombre du ciel se déchire déjà et laisse descendre un puits de lumière. Ici, on appelle cela « Finger of God », le doigt de Dieu. Le Dieu de Sky est une déesse. vieille et puissante, laide et envoûtante, comme les tempêtes qu'elle déchaîne. Elle a la peau bleue d'un cadavre, les cheveux mêlés en branches de gorgone, un œil unique qui sait voir jusqu'au fond l'âme des hommes. Elle fait grincer au ciel son doigt de lumière. Je le regarde glisser, le pinceau sacré qui dessine les contours de la montagne, en suit les courbes noires. Mon cœur bat au rythme de cette étrange caresse. Et l'averse déjà cesse, elle s'éloigne dans un soupir. La lande est d'argent maintenant, scintillante, irréelle. C'est ainsi que je la préfère, juste après la pluie, quand elle s'offre à nouveau au soleil, quand la vieille déesse se fait cajoleuse et tendre, moment fugace et précieux, et tandis que les gouttes commencent à sécher sur nos joues, le vent, déjà, apporte la prochaine averse. Dans ce paysage mouvant, sans cesse transformé, nous sentons, avec une délicieuse lenteur, le passage de chaque seconde, l'une après l'autre. Et chacune semble un miracle. Chacune a ce même goût, sauvage et puissant, cette force douce qui nous fait frissonner. Le goût de la pluie sur Sky, le goût de la vie.
Les gardiens du sauvage, qui d'autre en Écosse que les cerfs? C'est en Écosse qu'on trouve les plus grandes populations de cerfs dans toute l'Europe. Je crois que l'Écosse à elle seule représente un tiers des cerfs d'Europe. On les trouve partout. Il y en a de tous les côtés. On en trouve sur les îles de Harrison Lewis, des îles éloignées. On les trouve dans les landes, on les trouve sur la plage. On les trouve sur des petits îlots, on les trouve même en train de nager dans la mer. Et ça, c'est pas après trop de whisky. Hein. Je parlais pour moi, pas les cerfs. Il y a même une île, Djura, où on trouve environ 100 habitants, et on estime qu'il y a une population de cerfs d'environ 6000. Ça surprend toujours en France. Et en même temps, même si ça surprend, quelque part, on se dit que finalement, c'est le ratio qu'il faudrait entre peut-être le prédateur que nous pouvons être et les animaux sauvages, les herbivores sauvages. Donc au final, on a l'impression de trouver une certaine harmonie avec ces grands arbres de cerfs qui nous accompagnent souvent en Écosse.
Alors quand on randonne dans les Highlands, on commence souvent par un bon sentier qui devient de moins en moins bon et qui finit presque toujours par disparaître. Et là, on peut vraiment dire, dans ces cas-là, qu'on est dans le wild. Et c'est une bonne définition aussi pour nous de ce que peut être le sauvage, c'est quand les sentiers des humains ont disparu. À ce moment-là, on finit par marcher dans les sentes des cerfs et des biches, les fines sentes qui serpentent entre les loken, donc les petits loks. Quand on va ainsi dans le pas des biches pendant des heures, Il y a quelque chose de presque hypnotique. En fait, ça nous met presque en état de transe. Enfin, surtout moi, parce que je suis tellement épuisée souvent que je ne réfléchis plus et j'ai juste le regard rivé sur la sente de biche. Mais c'est vrai que j'aime ce sentiment qu'on peut avoir de marcher entre rêve et réalité. Et on aime traduire cette impression-là par des images volontairement floues qui nous font quitter les contours nets du réel pour nous projeter vers l'autre côté, en fait, vers le monde des animaux.
Ça a donc quelque chose de magique de marcher sur ces sentiers de cerfs et de biches. Et sur un plan pragmatique, il faut bien dire que c'est aussi le meilleur moyen d'éviter les pièges. Les cerfs et les biches, eux, savent où il faut aller. Ils ont une sagesse que nous n'avons pas, une connaissance du terrain que nous n'avons pas. Alors, ils nous évitent de nous perdre dans les tourbières. Ils nous amènent à travers des chaos de rochers, sont tombés sur des falaises. Ils nous font suivre des méandres, des torrents. Et parfois, ils nous amènent jusqu'à des petits vallons secrets où l'herbe est verte. On a plein de gratitude pour nos cerfs et biches qui nous ont fait découvrir quelques lieux absolument magiques. Et on se rappelle qu'en suivant ces sentiers, on est dans leur domaine. On est là un peu en invité. C'est eux qu'on suit.
Et marcher dans le pas des biches, donc bien sûr, il y a le côté pragmatique d'éviter les pièges de la tourbière, comme le disait Matt. Il y a aussi, trouve quelque chose de plus profond que parfois les personnes qui viennent en Écosse avec nous peuvent ressentir en marchant dans la tourbière. C'est que peu à peu, on commence à se relier à l'animal sauvage qui est toujours présent au fond de nous. Quand on marche comme ça, on sent partir couche après couche, kilomètre après kilomètre, la carapace de la civilisation, un peu comme une vieille peau qui s'effriterait. Et on se sent de plus en plus libre. Et vraiment, pour nous, le suivre, enfin, on pourchasse pas les cerfs. On est ni des chasseurs, ni des chasseurs d'images d'ailleurs. Donc on les suit, mais voilà, on sait juste qu'ils sont passés par là. Et c'est vraiment une manière aussi d'aller vers nous-mêmes. Il y a une poétesse américaine qui s'appelle Mary Oliver, qui n'est hélas pas traduite en français, mais je traduis pour vous. Dans un de ses textes, elle dit « Tu dois simplement laisser le doux animal de ton corps aimer ce qu'il aime. » Le doux animal de ton corps. Je trouve ça tellement beau. On l'a tellement perdu, l'animal de notre corps. Et c'est bien de se souvenir qu'on est aussi des animaux et de laisser l'animal se réveiller.
Alors les cerfs sont bien sûr les gardiens du sauvage. D'ailleurs, si vous pouvez en douter, le mot gaélique pour cerf, enfin pour biche plutôt, c'est fyrch. Et fyrch, ça va également dire sauvage. C'est exactement le même mot pour les biches, pas pour les cerfs. Les cerfs, c'est dav. Mais on peut aussi observer des superbes autres espèces qu'on voit difficilement ailleurs, comme cette loutre qu'on appelle le chien d'eau en gaélique, Madakushka. Lui, il est sorti juste à côté de nous, alors qu'on photographiait complètement autre chose d'ailleurs. On photographiait des vagues de pluie sur la mer. Puis on s'est arrêté pour pique-niquer. Et il s'est invité. Bon, il a porté sa casse-croûte. C'était sympa. Et ce qui est magique, c'est ce côté des animaux qui semblent pas du tout gênés par notre présence. En fait, il nous a regardés, mais il a décidé de continuer à manger. Et il était à quelques mètres. On peut vraiment dire qu'on a déjeuné avec une loutre ce jour-là.